Niveau record pour le Standard & Poor's 500. La bourse, est, le Dow Jones, lui, est à 26 656 à la fermeture. Pierre-Yves, comment expliquer tout ça?
Le Dow Jones, c'est normal, Paul, c'est juste quelques titres, évidemment, avec pas une pondération liée au capital. Donc, on le met de côté, on va vers le S&P 500 qui, lui, représente vraiment la capitalisation boursière américaine. Et on est dans le tapis, on est dans le haut, évidemment. Donc, on se dit, bon, regardons ça froidement. Oui, il y a de l'endettement. Oui, il y a des titres en croissance. Oui, il y a des dérivés. Oui, il y a plein de gens qui agitent l'épouvantail, tu comprends, d'une prochaine crise. Et je te compare ça, Paul, à un météorologue qui dit il va y avoir prochainement un orage.
Mm-hmm.
C'est cyclique. Tu sais, un moment donné, il fait beau. Il y a de l'évaporation dans l'air. Ça se condense dans le ciel. Et là, whoop, un moment donné, il y a des nuages et il y a un orage, un choc de température. Mais c'est un peu ça. On atteint la limite. Mais qui va dire quand? Tu sais, je connais des gens qui ont liquidé leur placement en 2015, ayant peur de la crise, puis qui ont perdu, tu sais, un 10% par année pendant 2 ans en manquant le bateau. Donc, faire du market timing, qu'on appelle en tentant de prédire la bourse, c'est difficile. Mais effectivement, on est en hauteur, là. Même le TSX, qui est quand même à un niveau très élevé, ben on se rend compte qu'il était plus bas, disons, au cours de l'année. Et puis là, ben oui, on a repris le dessus. Même chose avec le S&P 500. On a fait 17% sur un an. C'est énorme pour un indice. T'sais. T'as un indice qui est les titres, les plus gros titres américains qui te donnent 17% de rendement à rien faire d'autre qu'avoir un portefeuille des grosses capitalisations boursières. Donc, oui, les gens s'inquiètent parce qu'il n'y a rien qui sous-tend ça, sauf un positivisme des consommateurs, Paul.
Oui, mais il n'y a pas seulement des journalistes spécialisés qui brandissent des épouvantails. Regarde l'OCDE, je t'ai envoyé ça aujourd'hui, là. L'OCDE qui dit que les nuages noirs s'accumulent pour l'économie mondiale.
Oui, mais c'est normal. Comme on dit, c'est cyclique. Il y aura toujours une correction. Tu sais, tu fais toujours un pas en arrière pour remonter. Et Paul, rappelle-toi la crise de 2008. Rappelle-toi comment les placements en un an sont venus au même niveau, même si on n'avait pas connu une descente aux enfers aussi rapide. Ce qu'on dit aux gens, c'est il n'y a pas de logique à tenter de prédire la veille. Vous pouvez essayer, vous pouvez tout vendre, là. Mais si vous montez encore 3-4% pendant le moment où vous avez vendu, vous avez perdu 3-4% sur 2 mois, mais sur une année, c'est comme si vous coupiez 12%. Tu sais, faites attention un peu à cette tentative de vendre puis d'acheter au bon moment. Si on achète tous les jours, puis qu'on a une stratégie diversifiée et qu'on a un portefeuille en fonction de notre exposition au risque qu'on est capable de prendre, il n'y en a pas de problème.
Bon, 75$ par semaine en nourriture, ça c'est un problème pour nourrir une famille de 4.
Paul, statistiquement, une famille au Québec, un ménage au Canada a 2,4 personnes et dépense 8-9 000$ par année. Donc, pour 4 personnes, c'est environ 14 000. Et ça revient à peu près à 67-68$ par personne, Paul, par personne par semaine.
Oui.
En moyenne, statistiquement. Donc, quand on dit qu'on peut nourrir quelqu'un à 75$ pour une famille de 3, un adulte et 2 ados, on parle pas de viande. On parle juste de bouffe. On parle de pâtes, de féculents, un peu de légumes, du soya. Et aussi, on oublie une patente. C'est que oui, c'est possible de faire une épicerie de 75$. Si j'ai mon garde-manger plein, mon congélateur plein, alors une personne qui est privilégiée a un garde-manger plein et un congélateur plein et peut acheter 75-100$ de nourriture pour compléter la nourriture sèche,
oui,
compléter le congélateur.
Oui.
Mais au niveau des finances personnelles, Paul, c'est impossible.
C'est impossible. Écoute, 75 divisé par 4, ça fait 19$ par personne par
pour
semaine.
Une semaine.
Combien c'est mentionné dans ton calcul?
67-68$ minimum.
Bon, alors, sur une base annuelle, on a fait le calcul aussi, 3 900$ que ça représenterait sur 52 semaines, 75$ par semaine. Ben non, on dépense beaucoup plus que 3 900$.
Ajoute à ça que les coûts de l'énergie
augmentent. Dans une année, là.
Oui, mais tu sais, les épiciers t'ont dit, Métro a dit, on va être obligé d'augmenter nos prix. Le coût de l'énergie augmente, les matières premières augmentent, le dollar canadien, la faiblesse nuit à l'importation à faible coût, le salaire minimum est à la hausse. Donc, tout ça influence le coût de ton alimentation. Donc, c'est beau des fois de pas réfléchir à une question, mais tu sais.
Ben moi, je pense qu'il va se le faire dire.
Oui, parce que deux entrées dans les restaurants où il va, ça coûte plus que 75$.
Juste le valet parking.
Et juste le verre de Kim Crawford à la cage au sport, c'est 19$. On s'entend.
Les commissions de suivi. Quand les frais de gestion suscitent le débat.
Oui, CIBC se fait poursuivre par une espèce de groupe qui dit, écoute, On va aller une action collective pour poursuivre CIBC parce que on a des commissions de suivi et on n'a pas le rendement comme investisseur. C'est quoi ça? Une commission de suivi, c'est quand vous achetez un fonds avec une entreprise ou un courtier ou peu importe, vous avez potentiellement une commission de suivi qui est payée à la société de laquelle vous achetez le fonds par le fonds. Alors, sur plusieurs années, il reçoit une commission, je sais pas moi, entre 0.25% et 1.5% de la valeur de vos placements chaque année. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit des fois, tu sais, là, ton placement dans tel fonds, faut que tu le laisses au moins 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission de suivi qui vient avec. Donc, est-ce que l'investisseur en a pour son argent? Pas toujours. De l'autre côté, si on élimine les commissions de suivi, il y a un effet pervers à ça. C'est que le service personnalisé, le conseil personnel est moins accessible aux petits investisseurs. Tu sais, quand t'as 100 clients, puis chacun des clients a 15 000 piastres, il t'appelle aussi souvent quelqu'un qui a 100 000 ou 200 000, mais il t'appelle pour des détails. Donc, si t'as pas une grosse clientèle qui te permet d'avoir beaucoup d'actifs sous gestion, ben les petits investisseurs se retrouvent à ne pas avoir accès au conseil professionnel individuel parce que ça coûterait trop cher et il y aura pas de paiement par le fond. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ton... Qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu des robots conseillers? On veut-tu des placements indiciels seulement? On veut-tu du conseil personnalisé? Comment on veut payer les gens qui nous aident? Et c'est ça la question qu'il va falloir résoudre dans les prochaines années parce qu'il y a eu des belles années dans les placements, mais là, il faut commencer à se questionner. Est-ce qu'on mange du rendement à faire affaire avec quelqu'un? C'est ça la question.
C'est une excellente question. On devrait y réfléchir très sérieusement. Merci, Pierre-Yves. À demain.
Salut, Paul.